Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Et je reçois aujourd'hui le cinéaste Adnan Traga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous avez traversé la Seine pour venir à nous. Vous publiez un premier livre qui s'appelle « Cité Gagarine, on a grandi ensemble » aux éditions Jean-Claude Lattès. À noter que vous avez également réalisé un documentaire sur cette cité. Il sort quand le documentaire ?
Le documentaire, à la base, il était prévu pour novembre. Puis là, on l'a décalé au mois de mars.
D'accord, c'est à cause de la Covid ou pas ?
Ouais.
Ouais,
ouais.
Il a bon dos le Covid en fait. Hein. Bien, le grignotage de la cité Gagarine ou sa déconstruction, comme vous le dites, vous a donné l'occasion de lui dire adieu, ce qu'un dynamitage n'aurait certainement pas permis. Pourquoi ils ont décidé de la déconstruire comme ça ?
C'est pour principalement pour des raisons, je pense, écologiques, parce qu'ils ont récupéré toutes les matières qui étaient récupérables dans le chantier, dans l'immeuble, pour, par exemple. À un moment, j'avais vu passer des annonces, ils vendaient les radiateurs individuellement. Et aussi, il y avait de l'amiante dans les murs, dans la colle qui servait à coller les...
Ce qu'on a su après.
Les briques de parement. Et donc, ils ne pouvaient pas faire péter le truc, c'était trop dangereux. Il y avait des habitations juste autour, très compliquées.
Alors, pourquoi faire écrire l'histoire de cette cité Youri Gagarine alors que ce n'est pas la vôtre ? Vous habitiez celle d'en face.
Ouais. J'ai grandi en face, tous mes copains d'école venaient de Gagarine et quand on était dans ce quartier, on se sentait faire partie d'un tout. Il y avait nous, c'était Truyot, il y avait Gagarine, mais il y avait aussi Spinoza pas loin, Pierre Guinois, et on était tous, ce qui nous réunissait, c'était l'école Joliot-Curie, maternelle, élémentaire, puis le collège Politzer. Donc, et par rapport à ceux du centre-ville, on était tous mis dans le même sac, quoi. Donc,
Ivry, ville communiste.
Oui.
Ce qu'on appelait
un gros bastion.
Et ce qu'on appelait la banlieue, la ceinture rouge.
Hein. Ouais.
Et c'est marrant parce qu'en fait, finalement, les immeubles rouges, ils sont en train de disparaître.
Petit à petit, ouais. 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 C'est un petit peu. J'en parlais avec un militant communiste d'Ivry, je lui disais que la disparition de Gagarine, pour moi, elle coïncidait avec un petit peu la fin des banlieues rouges et du communisme municipal. Et lui avait beaucoup de mal à l'entendre. Il y en a qui ont du mal mais quand on voit toutes les villes, Saint-Denis, Montreuil, elles disparaissent toutes les unes après les autres. Donc, toutes les mairies tombent. Et ça colle avec ce moment où ces immeubles de briques rouges tombent aussi.
En forme de T, hein ?
Ouais.
Alors, vous écrivez qu'enfant, vous ne vous aventuriez pas à Gag. On s'y aventurait pas si on n'y habitait pas.
Non, parce que... Il y avait des espaces de jeu un petit peu pour les gamins et tout, mais nous, chez nous, on avait ce qui nous fallait. Et surtout, mes copains de Gagarine n'invitaient pas forcément leurs copains à la maison parce que, ils le disent bien, pas trop à l'aise, soit pas trop à l'aise parce que promiscuité, ou des familles nombreuses, toujours promiscuité, mais dans des appartements plus grands, c'était pas évident d'inviter, c'était pas dans la culture locale d'inviter des copains à la maison. Et moi, petit, je jouais plutôt avec mes copains de la résidence, puisque c'était une résidence, la copropriété où j'habitais. C'est après avec...
Qui s'appelait, on va le rappeler.
Truyot.
D'accord.
Truyot.
Alors, vous dites qu'elle était vraiment très différente, déjà, au niveau des habitants qui sont venus, même si en taille, ça y ressemblait, finalement, c'est combien d'appartements ?
Chez nous, ouais. Chez eux. Chez nous, à peu près 400 logements.
Et combien il y avait à Gagarine ?
350.
Ouais, donc
c'était la même chose à peu près.
Ouais. C'était des grosses cités.
Ouais. Et vu de l'extérieur, pour quelqu'un qui voit Truyot sans connaître le coin, c'est une cité. Sauf qu'elle est blanche, les parties communes sont assez propres, mais ça reste des grandes barres. Après, Gagarine, c'était moins bien entretenu. Donc oui, vu de l'extérieur, c'était... C'était un peu moins propre, quoi. Un peu moins accueillant au premier abord.
Alors, de qui cette cité porte-t-elle le nom ? Gagarine.
Gagarine, ouais. Du célèbre cosmonaute russe.
Mais puis, vous dites célèbre, mais est-ce que tout le monde s'en souvient ?
Je pense pas. tout cas, dans le coin, nous, à l'époque, hein, quand on était petits, on ne savait pas particulièrement qui était Youri Gagarin. Bon, on l'a su avec le temps, mais c'est ce que je raconte dans le bouquin. Quand on habitait là-bas, Youri Gagarin, on s'en fichait un petit peu de savoir qui c'était.
Le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace.
Oui, et c'est pour ça que quand ils ont cassé la première pierre, moi j'étais, et d'autres je pense, on était un petit peu énervés de la ville d'Ivry qui avait placardé les portraits d'Youri Gagarin dans toute la ville pour célébrer la destruction de la cité. Pas un seul habitant mis en avant ni rien. Et donc c'était toujours cette façon de faire pour et pas de faire avec. Donc,
d'ailleurs, les habitants disaient on a toujours été relégués, donc c'est normal.
Ils ont eu ce sentiment. En tout cas, moi, j'ai plein de copains de Gagarine qui me disent maintenant que c'est détruit, tout le monde vient filmer, tout le monde vient, le maire vient faire des discours, tout le monde vient faire des reportages, des expos artistiques. Mais quand ils y habitaient, pour eux, en tout cas, il se passait pas grand-chose, quoi.
Youri,
après. Ouais. Faut dire ce qui est. Moi, quand j'ai récupéré plein de photos d'archives pour le bouquin, et quand j'ai plongé dans les archives, le maire d'Ivry de l'époque, Jacques Laloé, j'ai quand même trouvé assez présent dans la cité, moi. J'ai trouvé plein de documents dans lesquels on le voyait avec les habitants, quoi.
Donc, d'accord. Et Youri Gagarin est venu à Ivry. Bah, il faut imaginer, c'était le premier homme dans l'espace.
C'était la fierté d'Ivry, apparemment, à l'époque.
Qu'est-ce qu'il est venu faire avec Maurice Thorez?
Avec Maurice Thorez et Georges Maran.
Qui était une grande.
Qui était le maire. Maurice Thorez, c'était le premier secrétaire du.
Qui a été ministre après Maran. Hein,
ils ont été ministres, tous les deux. Donc, Ivry, c'était une place forte du communisme en France, à l'époque. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, c'est un des derniers bastions. C'était un symbole de l'amitié franco-soviétique au niveau PC.
Mais c'était aussi à un moment où le PC, on le disait tout à l'heure, était très, très important.
On sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Le PCF avait été assez important. Maran, par exemple, ça a été un de ceux qui ont accueilli De Gaulle au moment de son retour en France pour la libération. Donc oui, c'était des personnalités assez importantes à l'époque.
Et une des questions que vous posez dans votre livre, c'est qu'est-ce que les municipalités communistes n'ont pas vu? Quels sont finalement ces rendez-vous manqués qu'elles ont eus avec les habitants des cités?
C'est une façon de s'adresser à eux et c'est une façon de les impliquer aussi. Comme je disais, ces villes-là, elles ont beaucoup fait pour les habitants, mais elles ont fait pour eux et pas avec eux. Par exemple, quand mes copains ont voulu s'investir en politique et tout, eux ne trouvaient pas leur place au PC et ils ne se projetaient pas dans des postes à responsabilité en militant au PC. Donc ils se sont retrouvés.
On les intégrait pas, on leur laissait pas de place. Pas,
en tout cas, c'était leur ressenti. Parce que j'ai d'autres, il y en a qui vont avoir un autre son de cloche. Il n'y a pas qu'une vérité. Donc la plupart, en tout cas, disent que non, on n'était pas intégrés. On faisait pour nous. On venait, on nous mettait. J'ai un copain qui caricature ça. Tenez, on vous donne une petite salle, on vous met une table de ping-pong au milieu de la cité, mais restez bien calmement chez vous. Et par contre, quand ils ont commencé à vouloir militer, à monter leur structure et tout, c'était un petit peu plus compliqué. Ils se sont pris des remarques dans la gueule, ça n'a pas forcément plu aux élus en place de l'époque. Et avec le temps, parce que ça a pris du temps, une dizaine d'années, le maire de l'époque, qui était Pierre Gosna, a inclus certains de ces jeunes dans son équipe municipale, mais
il était maire il y a pas très longtemps encore.
Ouais, il est décédé en 2014 ou 2015, je crois. Mais
c'était tardif.
C'est en 2007-2008 qu'ils ont commencé à les intégrer. Avant, c'était beaucoup plus compliqué.
Vous racontez cette histoire. Vous aviez un père qui était communiste, puisque vous vendiez l'Humanité Dimanche, vous distribuiez.
Moi, je le vendais pas. Il le vendait. Moi, j'allais distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres.
Vous étiez pas au JC?
Non,
aux jeunesses communistes.
On avait un militant Jean-Luc qui venait nous voir au collège, à la sortie du collège tout le temps. Mais pour nous, à l'époque, c'était un truc de blanc. C'était pas pour nous.
Mais votre père vendait quand même l'UMA.
Mon père vendait l'UMA. Il aurait aimé que je sois à la JC, qu'on soit à la JC avec mon frère jumeau. Mais nous, on s'identifiait pas à eux, en fait. Et mon père, je l'identifiais pas aux communistes d'Ivry. Il était pas, par exemple, il était dans la section de Truyot. Il était pas, et je l'ai jamais vraiment vu avec les communistes du centre-ville, avec ceux qui pour nous étaient plus aisés. Donc, moi, je faisais une distinction. Il y a tout le temps eu cette distinction territoriale, mais qui en fait était une distinction sociale, quoi. Il y avait nous et eux. Et après, c'est aussi avec l'âge, en rencontrant des gens différents, que nous aussi, on s'ouvre. Parce que dans le fond, nous aussi, on était un petit peu, peut-être un petit peu fermés. Donc,
Vous êtes ouvert au moment du lycée, plus tard, en fait.
Ça a commencé au lycée, j'ai commencé à parler, à sympathiser avec...
À vouloir
aller au boom, aux soirées et tout, ouais.
Au boom de blanc.
Au boom de blanc, ouais. Auquel on n'était pas invité au collège. Quand je leur dis aujourd'hui à certains potes que j'ai du collège encore, ils me disent bah, « c'est... t'étais invité ?»
Non, on a Patrick Soulaï qui est avec nous. Est-ce que t'étais invité ? Boum. Mais non, mais t'avais la carte ou t'avais pas la carte ?
Franchement, ouais. C'est, ils nous invitaient pas. On jouait avec eux, on était avec eux dans la cour du collège, mais ils faisaient leur truc entre eux. Hein. Ils ont du mal à le reconnaître quand on leur dit aujourd'hui.
Il y a une génération qui se reconnaîtra en lisant votre livre, c'est la boîte La Scala. Mais c'était La Scala, c'était la boîte où tu rentrais, en fait.
Dans Paris, ouais, on rentrait que là. En plus, nous, on n'avait pas vraiment de bagnole et tout à l'époque, donc je pense qu'il y avait quelques boîtes en banlieue un peu lointaine où on pouvait y aller en voiture. Nous, on y allait en métro, on rentrait à pied en courant derrière le Noctambus. Il n'y avait pas
les après-midi du dimanche à La Scala, d'ailleurs. C'était le soir ou
pas? Non, j'ai des potes de Gagarine, justement, qui allaient à la boîte où on allait en roller, là. On faisait
voilà, c'était...
Ouais, je sais plus comment ça s'appelait, mais...
Alors, ça va revenir. C'était la boîte à roller, ouais. Le Palladium ou le bus Palladium? Non, c'était pas ça, c'était quoi?
Non. Je sais plus.
Ça y est, dans le film La Boum. Pour ceux qui ont vu La Boum, parce qu'ils vont faire du roller dans cette boîte. Mais c'était la boîte des années 80.
Hein. On regardait La Boum, on se disait que ça avait l'air cool, hein, ces ambiances, nous. Mais on ne connaissait pas.
En tout cas, vous avez grandi dans une ambiance où à la maison, on lisait Le Monde et l'UMA, en fait.
Le Monde, l'UMA et des journaux marocains auxquels mon père était abonné et qui recevait. Oui, moi j'ai l'image j'ai mis des photos dans le bouquin de mon père qui lisait le journal tous les soirs sur son canapé, quoi.
Ouais. Et après qu'on va shipper à son père, ça structure quand même une conscience politique, mine de rien.
C'est un cadre qui a fait de moi ce que je suis, quoi. Mon père tout le temps comme ça. Je sais pas si on voit.
On montre à la caméra pour ceux qui regarderont l'émission, mais c'est vrai que c'est. On lit ce qu'il y a à la maison souvent.
Oui. Non, mais j'allais pas trop shipper ces journaux. Moi, j'étais plus dans les strange, sans prononcer.
Strange. C'est pas mal ça déjà. Les comics.
Les X-Men et tout ça, ouais.
Allez, vous publiez Cité Gagarine, on a grandi ensemble aux éditions Jean-Claude Lattès et on feuillette ce livre jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le Book Club qui a lu pour vous aujourd'hui le premier livre. Alors, je sais pas à quel genre appartient votre livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un roman autobiographique? C'est un travail de journaliste? C'est un cinéaste qui fait un livre? C'est quoi,
hein? Moi, justement, en l'écrivant, je savais pas ce que j'étais en train d'écrire. J'ai demandé à Anne-Sophie, mon éditrice, elle m'a dit c'est un récit.
D'accord.
Donc voilà, c'est un récit.
Et ça s'appelle Cité Gagarine, on a grandi ensemble chez Jean-Claude Lattès. C'est l'histoire de quelque chose, d'un monde que vous avez fui. Pourquoi est-ce que c'était pour vous tellement important de laisser une trace de ce monde qui disparaissait et que vous aviez voulu fuir?
Il y a deux choses. Déjà, on se rend compte de ce à quoi on tient quand on le perd. Donc le fait de voir cette cité disparaître, moi, ça m'a donné, j'étais pas programmé, j'avais pas du tout programmé dans un premier temps de faire un documentaire sur Gagarine. Et quand la destruction, le projet de destruction était bien avancé, qu'il y avait quasiment plus d'habitants dedans, que tous mes copains avaient emménagé ailleurs et tout, moi je me suis dit, ah c'est con, je ferais bien un doc là-dessus, alors que je viens pas du documentaire, je suis plutôt dans la fiction moi, mais j'avais pour Gagarine envie de filmer le réel. Et la deuxième chose, c'est que il y a plein de projets qui ont commencé à se faire dans ce quartier. La plupart, je trouvais que c'était des trucs bien en plus, soit pièces de théâtre, expo photo, il y a eu un film de fiction aussi tourné. Mais je retrouvais pas le quartier que moi je connaissais, parce que, et c'est normal, les gens qui arrivaient pour faire des choses sur le quartier, bah, ils s'adressaient, ils partaient des gens qu'ils trouvaient, des habitants qu'ils trouvaient, mais qui étaient les habitants des 10 dernières années. Sauf que mes amis, c'est ceux qui ont fait ce que Gagarine...
Vous arrivez en 73?
Moi, je suis de 75, mes parents arrivent en 73, donc moi, c'est les années 80, 90, et jusqu'à à peu près 2005-2006, j'ai fréquenté ce quartier. Bon, après, même si j'ai continué à habiter à Ivry, j'y étais moins, à part pour aller voir mes parents. Mais voilà, je retrouvais pas le gag que je connaissais dans tout ce que je voyais.
Mmh. Gagarine, comme voie d'accès pour le cinéma, c'était pas gagné, puisque aujourd'hui vous faites du cinéma, c'est pas la voie royale.
Ah non. Mais de toute façon, le cinéma, c'est un milieu ultra verrouillé, donc il y a très peu de voies d'accès. Il y en a une, c'est la détermination. Faut être déterminé, faut être prêt à rien lâcher et se dire que, à un moment, ça va payer. Moi, ce qui m'a amené au cinéma, c'est des rencontres, et des rencontres que j'ai fait en arrivant à la fac et en rencontrant
en sortant de la cité quand même.
En sortant de la cité, toujours.
Ouais, à la Sorbonne.
Et pour plusieurs personnes dont je parle dans le bouquin, ils se sont accomplis en fuyant la cité, sans la renier jamais, mais en la fuyant quand même à un moment. Et la plupart, quand on en reparle maintenant, c'est avec beaucoup de nostalgie, et il y a quasiment que le positif qui reste, quoi. J'ai Loïc qui est dans le bouquin.
C'est lui que vous avez mordu?
Ouais.
Ah, ouais. C'est lui, d'accord. Il m'a dit.
Loïc.
Loïc m'a dit, je me rappelle, il m'a mordu.
Non, il s'en souvient pas trop, lui.
Ah bon?
Il dit, si tu le racontes, c'est que ça doit être vrai.
Mais. Oh, il a oublié, parce qu'il a perdu ce jour-là.
Non, j'ai décrété que j'avais gagné.
Ah, lui, d'accord, pardon.
Il décrète qu'il a perdu. C'était des larmes de rage. Pas de douleur.
Qu'est-ce qu'il a fait, Loïc? Parce que non, lui, c'était un gars qui a toujours été différent dans la cité, vous dites.
C'était un
dans un endroit où on peut pas être un ovni, on n'a pas le droit à la différence.
Non. Mais je pense que dans quasiment tous les milieux, c'est compliqué d'être différent. À la campagne, un mec qui est différent dans un village, il va sûrement être mal vu. Si on va dans un quartier dans lequel si on va à Saint-Germain-des-Prés, qu'on n'a pas le look local, on va peut-être être mal vu aussi. Si on rentre en survette, basket, casquette dans une boutique de Saint-Germain-des-Prés, on va nous regarder bizarrement.
Lui, c'est une autre différence finalement. Bah, il assumait la musique qu'il aimait,
la différence danse culturelle. Lui, c'était une envie d'aller dans une culture, le rap, le hip-hop, à une époque où c'était pas établi, installé comme aujourd'hui en France dans les années 90. À l'époque, quand on se mettait à s'habiller avec un look de rappeur américain, donc baggy, grosse doudoune, il avait lui-même les dents en or ou en argent, tout le monde se foutait de sa gueule, les mecs le traitaient de zoulou, ce qui était très péjoratif. Or que normalement c'est noble le terme zoulou, mais à l'époque c'était péjoratif. Et lui, rien à cirer, il a fait son truc, mais à un moment, pour pouvoir vivre sa passion, sa musique à fond, il s'est barré de Gagarine. Ce qui est marrant, c'est que là, jusqu'à il y a un an, il y avait une grande affiche du groupe de rap PNL, puisqu'ils ont habité quelques années à Gagarine.
Il y a un clip, hein, d'ailleurs.
Deux frères, ouais.
Ouais, ouais, deux frères, ouais, où ils filment.
Ouais. Il est beau, le clip, en plus.
Ouais,
il est super beau. Ouais. Même là, moi, j'ai appris à apprécier PNL, parce que j'avais jamais écouté, mais j'aimais pas. mais j'avais jamais écouté mais en vrai.
Il y a beaucoup de, vous savez, le principe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur des choses qu'ils connaissent pas.
Ah ouais,
et alors ils ont des avis, mais alors.
Mais j'avais un définitif. Avis tranché sur eux, hein, moi. Je fallait pas m'en parler. Et en fait, quand ils ont tourné ce clip, moi, je tournais mon documentaire. Et les mecs, je les ai trouvés cool en parlant un peu avec eux et j'ai vu ce qu'ils faisaient. Je me suis dit, non, ils peuvent pas être entourés comme ça et faire un clip de cette qualité sans que leur musique soit au moins intéressante. Et j'ai plongé dedans et j'aime bien maintenant.
Bien.
Mais excuse-moi.
Lui, donc le Loïc, comment il s'en est sorti finalement?
En fait, Loïc, lui, il a fui Gagarine pour pouvoir vivre sa passion à fond. Il a monté un groupe qui s'appelait, avec des copains qu'il a rencontrés à la fac, je pense, qui s'appelait La Brigade. Et à l'époque, il a bossé avec les gars d'IAM, d'NTM, Arsenic, Booba. Il a fait un morceau avec Lunatic. Donc, ils ont fait 3-4 albums, disques d'or. Mais pour faire tout ça, alors que le rap, aujourd'hui, est associé aux banlieues, aux cités, à l'époque, donc il y a 25 ans, il a dû fuir la cité pour pouvoir faire du rap. C'est marrant, quand même.
C'est intéressant. Donc, de voir comment au départ, on est tout seul à avoir raison, et puis après, tout le monde fait comme vous.
Bah, c'est en fait, pour moi, c'est si on a une passion, faut y aller à fond, et si.
Non, mais faut être fort aussi.
Faut être fort dans la tête.
Pour être contre le groupe, contre la majorité.
Moi, par exemple, à son âge, à l'époque, j'aurais pas eu, sa détermination. Moi, c'est venu avec le temps, ce truc. Mmh. Puisque quand j'ai commencé à vouloir faire du ciné et tout, même mes copains, ils se foutaient de ma gueule. Ils m'appelaient Spielberg. Et à l'époque, Spielberg, il y avait un côté péjoratif, quoi.
Mais Besson, il arrive quand dans votre vie?
Moi, j'en parle pas de Besson dans le bouquin.
Bah, attendez, j'ai passé des coups de téléphone. Non, je vous ai Besson, dit, moi, je suis à l'ancienne.
Besson.
J'ai des fiches sur tout le monde.
Besson, je l'ai rencontré à l'époque, Cheval de Troie. C'était, mon Cheval de Troie pour rentrer dans le ciné, c'était à l'époque de MySpace. Donc, c'était le réseau social avant Facebook. En 2007, j'avais avec deux copains de Vitry, on avait fait une web série qui s'appelait Passe-Passe le Mic, et qui était un truc où on parodiait des rappeurs et tout. Et ça a bien marché pour l'époque. Et Besson est tombé là-dessus à un festival à Aubervilliers.
Comme il a l'œil du tigre.
Ouais, mais franchement, par rapport à tout ce qui est dit sur lui, le gars, il voit nos trucs un vendredi, le mardi qui suit, 3 jours plus tard, on est dans son bureau, il nous dit, et on était en train de monter une boîte de prod avec mon frère et un pote, il nous dit, bon, vous êtes 3, j'aimerais être le 4e homme avec vous. Il nous fait une proposition et il monte une boîte avec nous. Au moins, ce gars, Besson, il nous a tendu une main ferme et il y est allé parce que il allait chercher des talents entre guillemets là où personne n'allait. Nous, on l'a ramené dans une salle de spectacle à Ivry où il y avait 100 personnes. Il est venu tout seul en scooter tranquille. La plupart des cinéastes de gauche là qui se la jouent révolutionnaires, ils n'auraient pas fait ça, hein, tu vois. Donc après, il est pas allé au bout de ce qui de là où il devait aller avec nous. Mais bon, voilà. C'est aussi que je me suis jamais reconnu dans ce qu'il faisait non plus. C'était pas un bon mariage.
Bien. Alors, on va parler d'un bon mariage, justement, votre premier film qui s'appelle 600 euros. On va écouter celui qui a fait la musique de votre film. Vous aviez réalisé 2 clips pour lui. Il s'appelle Nadir, on le connaît, moi je l'ai vu débuter, hein, on le connaît bien sous le nom de Ridan.
Ouais.
Comment est-ce que vous lui avez demandé de faire la musique de votre film?
En fait, je lui avais fait 2 clips en 2012, et au même moment, j'en avais marre d'être signé avec Besson et de rien faire, et je me suis lancé dans la réal et dans le tournage donc d'un film autoproduit indépendant, en fait, que j'ai écrit en tournant. C'est-à-dire que j'écrivais une scène, je la tournais le lendemain. J'ai commencé à l'écrire, j'avais pas de scénario. Ça s'appelle 600 euros, le film est sorti en salle en 2016.
Et a bien marché.
Ouais.
Succès critique.
Super succès d'estime. Vraiment, on a eu des super critiques et tout. Après, en termes commerciaux, on était un des petits, donc on a fait ce qu'on a pu, mais super expérience. Et Nadir et Ridan, en mars 2013, je vais le voir, je lui dis, ouais, je fais un film indé, j'ai pas de thunes, j'aimerais des musiques. Il me dit, bah, montre-le-moi, si j'aime bien, on en reparle, si j'aime pas, laisse tomber. Il regarde le film. Moi, je suis à côté de lui, à l'époque, pas sûr de moi, parce que je l'ai pas montré à grand monde. Il regarde et à la fin, il me dit, bah, vas-y. Par contre, t'as pas de but. Ce qu'on va faire, on va essayer de trouver des musiques un peu adaptées que j'ai et on va les réadapter. Et je fais mon marché comme ça et tout. Et 10 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, viens, j'aimerais te montrer, te faire écouter un truc et tout. Et là, je me retrouve face à Ridan, pas sûr de lui, qui tient une feuille, qui lance une instru et il se met à me chanter une chanson qu'il a écrite pour le film sans que je lui demande 600 balles. Et que j'ai, c'est un cadeau qu'il m'a fait.
Et c'est un inédit, Ridan.
Un inédit.
J'ai brûlé tous les pneus en travers de ma route, en croyant qu'à Paris on cesserait de m'enfumer. J'ai chanté mes détresses aux quatre coins de leur télé, mais forcé de constater qu'ils n'en ont rien à foutre. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. À chacun son marché, quand on goûte la galère. Pour certains le caviar et pour d'autres les fruits de merde qui pourrissent sur le pavé en espérant qu'un badaud les ramasse discrètement pour nourrir sa colère. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. J'ai puisé toutes les larmes de mon corps desséché, par la faim, par la peur de ne pouvoir résister. J'ai marché toutes les rues sans savoir quoi trouver, une petite pièce, messieurs, dames, sans vouloir exister. Un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue. Faut tenir bon qu'ils me disent, les bons hommes de pouvoir, qui nous chantent la misère, mais qu'en parlent sans savoir. J'ai fait le choix de m'enflammer dans ma rue sous les cieux, en croyant que peut-être vous ouvrirez les yeux. Foutu à la rue comme un vulgaire inconnu, un bifton de 600 balles et un coup de pied au cul. Ils m'ont foutu à la rue sans même me dire salut. Moi qui vivais comme un con, j'ai découvert la rue.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et le Book Club a lu pour vous un livre alors avec des images. Il y a beaucoup, beaucoup d'images puisque c'est l'histoire de la cité Gagarine qu'on feuillette ce matin. Et le livre s'appelle Cité Gagarine. On a grandi ensemble aux éditions Jean-Claude Lattès avec mon invité Adnan Traga. Vous avez grandi avec Samira, par exemple, qui s'est sortie de la cité. Alors, on parle de réussite, mais elle, c'est autre chose même. C'est au-delà. Parti étudier à Harvard.
Oui, bah bon, là on est presque dans le cas particulier limite, mais c'est une réussite. Elle me racontait que dès le Samira, moi je connaissais bien son grand frère à l'époque et je la voyais comme une petite de la cité, mais elle me disait que dès le collège, elle savait que fallait qu'elle se sauve de là, de ce collège de quartier, collège Politzer. Aujourd'hui encore, ce collège personne, plein d'Ivriens ne veulent pas mettre leurs gamins là-bas. Et nous, on se retrouvait tous dans ce collège. Et dès le collège, elle s'est retrouvée dans le privé, elle, dans le 13e arrondissement.
Lycée Cato.
Lycée Cato. Pendant quand on mangeait pas à la cantine dans ce collège lycée, fallait sortir du collège. Et pendant le Ramadan, par exemple, bah, elle allait au cours de catéchisme pour pas traîner dehors. Mais elle me dit qu'elle se retrouva à écouter les mêmes histoires que sa grand-mère lui racontait. C'était les mêmes personnages et tout, hein. Et Samira, c'est des rencontres. C'est des rencontres qu'elle a fait, d'abord dans le quartier. à Gagarine, elle était copine avec la fille de celui qui tenait la petite supérette, qui elle allait déjà au collège ailleurs, et elle a eu des modèles qui l'ont extirpée de cette cité. Puis quand elle est partie à la fac, un prof qui lui dit, parce qu'il voit qu'elle est talentueuse, qu'elle est douée, qui lui dit, bah, si tu veux aller loin dans les études, quitte la fac de banlieue, va à Jussieu, qui l'aide à s'inscrire à Jussieu. Puis à Jussieu, elle rencontre un prof d'Harvard qui vient pour un séminaire ou je sais plus trop quoi, qui la remarque et qui la fait venir là-bas. Elle passe 6 ans là-bas. Elle rencontre celui qui est devenu son mari à New York, et elle se marie au Harvard Faculty Club. Non, parcours exceptionnel. Et là, aujourd'hui, elle est revenue en France, elle est en région parisienne, elle bosse ici, et elle est dans le documentaire et dans le bouquin aussi.
Il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre livre. Pourquoi est-ce que les filles sont tellement absentes des histoires d'habitants de Gagarine que vous racontez ?
Parce que on côtoyait pas trop les filles du quartier à l'époque. Les filles du quartier, déjà quand elles sortaient, c'était soit pour aller bosser à la bibliothèque ou pour aller faire des courses ou pour aller voir des amis, mais à l'extérieur de la cité. Elles traînaient pas en bas de la cité. Et la raison principale, c'est que il y avait beaucoup de familles nombreuses et tout, et les filles, elles avaient pas envie de traîner là où traînaient leurs frères, leurs cousins, parce qu'il y avait des grandes familles d'oncles, de tantes, les copains des frères. Du coup, on fréquentait, et que ce soit à Gagarine ou Truyot, on fréquentait pas particulièrement les filles du quartier. Les copines qu'on avait et tout, c'était plus les filles du lycée, du collège. J'avais plus de copines d'école que de quartier, en fait.
Qu'est-ce que vous appelez l'assignation à résidence, et qui a inventé le terme pour parler des habitants de ces cités ?
L'assignation à résidence, moi, ceux qui en parlaient, c'est deux copains de Gagarine, Karim et Mehdi. Ça voulait dire...
Karim, c'est Babyface.
Babyface, c'est ça. Ouais. Babyface, ouais, parce qu'il avait un visage de bébé, même à la fac, enfantin. Et eux disaient, et ceux qui ont à un moment voulu créer et qui ont lancé avec d'autres habitants d'Ivry, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qu'ils ont présenté qui a présenté une liste aux élections municipales et aussi cantonales après. Mais l'assignation à résidence, c'est t'es dans un quartier, tu y restes, et tu y restes à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau géographique. Donc on traînait beaucoup dans le quartier, on n'allait pas beaucoup dans d'autres quartiers d'Ivry. L'assignation culturelle, donc quand Loïc, par exemple, a voulu se mettre à faire du rap, qui n'était pas la culture locale à l'époque. La culture locale, c'était plus le funk, le raï, un peu de chansons françaises par certains chanteurs comme Cabrel, Joe Dassin, Aznavour, qui étaient appréciés par les habitants. Si on avait des envies d'ailleurs, c'était très compliqué, très compliqué, et on s'autorisait pas. Il y avait une assignation à résidence qui était imposée, on nous faisait rester dans ce quartier, et nous qui étions dans ce quartier, on ne s'autorisait pas forcément à aller voir ailleurs. Par exemple, moi, à 15 ans, 16 ans, même à 20 ans, je me serais pas vu me dire je vais faire des films, je vais écrire un bouquin. C'était des choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas pour nous. Et c'est moi, par exemple, avec le temps, avec les rencontres faites à l'université, que on s'est mis qu'on s'est enlevé déjà ces œillères et qu'on s'est mis à aspirer à autre chose que ce que le quartier nous imposait.
Mais vous avez aussi la chance d'avoir un père qui a pas lâché le morceau, non, et qui finalement est allé contre, alors ce que vous appelez la conseillère d'orientation, qui est vraiment le personnage des années 80-90, ouais, hein, ce qu'on appelle la briseuse de rêve. Et votre père, lui, avait décidé que vous feriez un bac S, et vous avez fait un bac S.
Ouais. Et c'était dur à l'époque.
Parce qu'on vous promettait, on vous promettait un avenir de manuel, quoi.
Mais non, mais moi, j'ai un professeur, j'étais en seconde générale, le professeur dit devant mon père, les réunions, là, qu'on faisait parents-prof, élèves avec son, mon père à côté, face au prof, il dit à mon père, votre fils, Emmanuel, il devrait aller, en première technologique. J'avais même pas bricolé un tournevis et un marteau, je savais pas quoi en faire. Et mon père, non, il avait décidé que je ferais première S. Je sais pas pourquoi il avait décidé ça. C'était même pas ES. Limite, j'aurais préféré ES. Non, c'était S. Physique, chimie. Et au final, j'ai eu mon bac du premier coup. Et si j'avais écouté ces profs qui voulaient m'envoyer en technologique, sans dénigrer les filières technologiques et les métiers auxquels on accède via ces filières, mais en tout cas, j'aurais pas fait derrière les rencontres que j'ai fait et j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu. Donc oui, il y a des briseurs de rêves. Après, je pense que ça a évolué. Hein. Aujourd'hui, les profs, c'est plus les mêmes qu'il y a 20-25 ans. Je parle vraiment de notre époque, quoi.
Mmh. On parlait de votre copain Karim, qui lui longtemps s'est pas senti français. Il se sentait 100% algérien. Et lui, aujourd'hui, il est à la fois 100% algérien et 100% français. Ouais. Comment est-ce qu'il s'est réconcilié avec son identité française?
Bah lui, c'est le genre de mec, et il y en a eu beaucoup, des comme ça. Moi, j'en ai fait, j'étais un peu comme ça à un moment, mais je me suis détaché de tout ça un peu plus rapidement. Mais à se rechercher au niveau identité. Et donc, à force de voir tout le monde, que ce soit les profs, les politiques, les médias, les livres d'histoire, nous dire « vous êtes des Arabes », bah nous, on se voyait pas comme français. Karim, il se voyait pas du tout comme français. Lui, il se voyait avant tout comme algérien, mais si, parce que quand on allumait la télé, quand on écoutait la radio, il y avait rien qui nous permettait de nous identifier. Il y avait pas de modèle ni rien. Et Karim, lui, c'est ce que je racontais, par exemple, en 98, moi, la finale France-Brésil de la Coupe du Monde, j'étais pour la France, parce qu'il y avait Zidane et tout. Lui, il était pour le Brésil. Et le soir, le 12 juillet 98, il se baladait avec son maillot du Brésil dans la rue, quoi. Il était dans la provoque, mais à fond. Et il a eu un parcours scolaire qui lui a permis à un moment de se retrouver en bac 5.
Et puis il y a le voyage en Corse.
Ouais, il est en stage en Corse et c'est là où il rigole, il me raconte. Pour la première fois de sa vie, il était content de se faire insulter parce qu'il est dans la queue d'une boulangerie et il y a un vieux Corse qui vient, il le double. Karim, il lui dit « Excusez-moi, j'étais là ». Et le mec le regarde, il se retourne, il le regarde et il lui dit « Casse-toi, sale français ». Et là, Karim, il éclate de rire. C'est la première fois de sa vie qu'on le traitait de français et en l'insultant. Et c'est à cette époque-là, quand il a commencé aussi à être vu par la société comme un diplômé, comme un cadre, et plus comme un jeune rebeu fils d'Algérien de Gagarine, que lui s'est senti pleinement français.
Il y a un film à faire sur l'histoire de votre père, hein, Omar Zoubiri, opposant au régime marocain, au même titre que Mehdi Ben Barka. Incroyable, hein? Il quitte le Maroc avec un faux passeport, il va à Oran, il arrive en France avec un faux passeport. Ah ouais. Il vous a raconté votre père son histoire un peu ou pas?
Sur les dernières années.
Vous avez commencé à avoir un dossier suffisant pour faire
Oui. Bah en fait, il écrivait un peu son histoire. Il a dû taper genre 200 pages qui sont à reprendre et tout. Et je l'ai beaucoup interrogé, filmé, oui. Mais lui, il avait envie d'écrire ses mémoires en arabe. Moi, je lui disais, mais non, mais écris un livre en français. Moi, je te trouve quelqu'un qui t'aide. On trouvera le moyen de l'éditer. Il me disait, non, moi, je veux écrire en arabe pour les Marocains, pour le peuple marocain, pour que ce soit un livre populaire et accessible par tout le monde
parce
là-bas.
Parce qu'il était opposant, donc, il était opposant cours, mais, au régime. Et...
Ouais, mais il y aurait, non, mais il y aurait un film, il y aurait un bouquin, il y aurait... Après, bon, moi, c'est facile de dire ça, c'est mon père, donc Donc voilà, mais bon,
c'est une époque sur laquelle on n'a pas énormément écrit et sur laquelle il n'y a pas encore.
Il y a
énormément de zones d'ombre sur l'époque et on n'a pas énormément écrit. Bon, alors là, dans la bande originale de votre livre, alors il y aurait pu y avoir Jean Ferrat, mais ça c'était ailleurs.
Ma môme de Jean Ferrat, c'est.
On va écouter celui que vous surnommez le Cab. Francis Cabrel.
Pas le cabriolet. Ouais.
Non, c'est Cabrel, l'idole de certains dans la cité finalement. Et on va écouter une chanson qu'on n'écoute pas souvent de Cabrel, plus souvent d'ailleurs.
Saïd et Mohamed. Elle est exceptionnelle cette chanson. Moi, je pense que c'est par cette chanson que j'ai commencé à apprécier Francis Cabrel. Et c'est Foued et Karim, deux copains de Gagarine avec Adlène, un autre pote, qui m'ont fait découvrir cette chanson.
Et ils vont au concert, eux.
Ah, eux, ils
vous,
vont
vous n'y allez pas. Vous, eux, ils vont dans
on
le
les dépose en bagnole en 96, je crois. À l'époque, je préfère aller me balader sur les champs, aller regarder les disques chez Virgin, écouter un peu de musique.
Chez Chandisque, si ça existe encore, je ne sais même pas.
Et on va les récupérer après le concert. On était cons. Hein.
Ah ben voilà, vous avez raté un concert. Alors on rappelle le titre de votre livre, puisqu'on va se quitter avec Francis Cabrel, ça s'appelle Cité Gagarine. On a grandi ensemble, l'éditeur c'est Jean-Claude Lattès. Merci d'en avoir parlé avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Elle changeait les draps de l'hôtel, les traces de doigts sur les poubelles. Petite hirondelle, au milieu des corbeaux, elle chantait Desperado. Moi j'avais du retard sur le sommeil, je m'étais fait doubler par le soleil. Elle, de l'autre côté du couloir, elle faisait chanter les miroirs. J'ai passé une heure de sa vie, une heure sous le soleil d'Algérie. Sous la course des planètes, y a des moments qu'on regrette. Derrière ses paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Ces enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulé pour toujours. C'est la fenêtre sur la troisième cour. C'est le cri des voisines, plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend le mauvais français, le musulman. Sous la course des planètes, ça serait bien qu'il s'inquiète avant que ses paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. Toi t'envoies 10 francs pour les enfants du Gange parce que t'as vu des photos qui dérangent. T'envoies 10 francs pour les enfants d'ailleurs parce que t'as vu des photos qui font peur et elles que tu croises en bas de chez toi. Elles que tu croises en bas de chez toi. Depuis, je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles. Y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poubelles. De l'autre côté d'un autre couloir, elle doit faire chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.